Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
J'entre dans le hall. Ce qui me frappe en entrant, c'est une main au plafond du hall. Et avec au-dessous cette légende, prends tout ce qui n'est pas juif t'appartient. Extrait des lois juives internationales. Prends. En puisant depuis des siècles dans leur Talmud, les juifs ne poursuivent qu'un but, notre asservissement. Et c'est cette preuve qui doit être donnée dans la visite de cette exposition. Je remarque pas mal de citations de Louis-Ferdinand Céline au cours.
Ah oui, évidemment, notre grand écrivain antisémite moderne, j'entends bien.
Dans une population, il y a à peu près, on va dire, 10% de héros, alors avec plein de guillemets, hein, 10% de salauds avec aussi plein de guillemets, et puis tout le reste, qui sait pas, qui attend, qui sait pas de quel côté il va tourner, vers les salauds, vers les héros, vers pas, vers... voilà, donc c'est... L'humanité, elle est comme ça, capable du meilleur et du pire.
Peut-on désobéir à son État, à son administration? Peut-on s'émanciper de la collectivité? Peut-on penser en tant qu'individu? Peut-on lutter contre une machine huilée et qui avance comme ça? Ce genre de questions, la Shoah, ça sert à ça, quoi. C'est un formidable déclencheur de réflexion individuelle, collectif. Ça fait mûrir.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette émission qui s'ouvre avec les voix de vos deux invités, vos historiens du jour, Cédric, prof d'histoire-géographie, et Yvette, anciennement directrice d'école maternelle et qui travaille depuis les années 90 sur l'histoire de la déportation des Juifs sous l'occupation. L'occasion d'évoquer deux événements de cette époque, la rafle du Vélodrome d'hiver du 16 juillet 42, qui paraît-il s'estompe dans les mémoires, et encore moins connue, la rafle en zone dite libre du 26 août 1942, dont on parle encore moins et encore moins bien. Deux rafles de masse, parmi d'autres rafles, réalisées par la police et l'administration française, sans le concours d'aucun nazi. La France de cette époque sera la seule à livrer ses propres ressortissants. Vous pourriez vous dire que c'est vieux tout ça, que c'est loin, que c'est des trucs de manuels scolaires poussiéreux sans rapport avec vos préoccupations. Pour Yvette, ce travail de recherche historique a commencé avec un simple cliché trouvé dans son album de photos de famille. Et voilà la photo en question.
Alors ma grand-mère est au milieu, là Madame Epstein et Marianne. Alors Marianne, elle s'appelle Marianne parce que ses parents sont très admiratifs des Lumières et donc c'est en l'honneur de la République française qu'elle s'appelle Marianne, cette petite. J'ai pu lire le témoignage d'une de ses camarades d'école. Marianne disait qu'elle était très contente d'être en France en sécurité, très très soulagée d'avoir pu quitter l'Allemagne.
La suite de l'histoire, c'est que la petite Marianne sera arrêtée par les autorités françaises et mourra avec ses parents dans un camp nazi. Mais cela, Yvette ne le découvrira qu'après de longues recherches dans les archives, car c'est aussi ça le boulot de l'historien. On parle beaucoup de devoir de mémoire ces derniers temps. Dans cette émission, on préfère le devoir d'histoire. Et l'histoire, ce sont des faits, des sources, des documents, des recherches, des croisements. Un travail parfois énorme et fastidieux dans les archives. C'est une histoire qui concerne toute la France.
Cette histoire-là, je ne suis pas sûre qu'elle soit étudiée dans tous les établissements scolaires. Je ne suis pas sûre que dans les lycées professionnels, ce soit enseigné. Et je ne suis pas sûre que les jeunes qui sortent du système scolaire prématurément, ils aient reçu un enseignement complet là-dessus.
L'enseignement de la Shoah intervient en CM2, mais de façon très simple. En classe de 3e, c'est compliqué parce qu'il y a le brevet, donc on est dans une démarche qui est très utilitaire vis-à-vis du brevet. Ensuite, ça intervient en classe de 1ère avec la réforme. La Seconde Guerre mondiale se résume à 3 sous-chapitres éclatés, dont un qui s'appelle « La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement », dans lequel on met à peu près sur le même plan la Shoah, les bombardements des villes allemandes et Nagasaki et Hiroshima. Ce qui introduit dans les processus de destruction humaine des confusions absolument phénoménales et aucune identification justement d'individualisation des processus de mort. Quoi. Dire les bombardements des villes allemandes, c'est pas un génocide.
pour se souvenir, il faut d'abord savoir. On s'aperçoit que beaucoup de gens ne savent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas savoir, soit parce qu'ils n'ont pas eu envie de savoir, ou simplement, de façon complètement sincère, parce qu'ils ignorent ces épisodes de l'histoire de France. Et pourquoi ils ignorent ça ? Bon, moi, je suis de la génération née juste après-guerre. La Shoah n'était pas enseignée du tout à l'école. J'étais au lycée Joachim du Bellay à Angers. Il y avait eu des professeurs résistantes déportées. Il y avait un monument en l'honneur de ces femmes-là. Et tous les ans, on avait des cérémonies en leur honneur, ce qui était parfaitement normal. Mais on ignorait absolument que des élèves juives avaient aussi été déportés de ce lycée. Et je n'ai appris que vers l'âge de 50 ans qu'un convoi, le convoi numéro 8, composé de près de 900 juifs, était parti d'Angers directement pour Auschwitz, la seule ville qui avait réussi, entre guillemets, à faire un convoi. J'ignorais donc avant totalement l'existence de ce convoi.
Avant qu'on aille plus loin dans cette émission, Yvette, à quel titre parles-tu ? Est-ce que tu es représentant d'une association juive ?
Non, pas du tout. Premièrement, je ne suis pas juive. Deuxièmement, je représente un peu une association qui s'appelle l'ARESVAL, Association Recherche et Études Historiques sur la Shoah en Val-de-Loire, mais que j'ai créée avec d'autres en 2000.
Qu'est-ce qui te motive dans ce travail ? Parce que tu pourrais faire après tout comme beaucoup de gens. « Oh bah, pff, j'étais pas né, je m'en fous. De toute façon, je suis pas juif. »
Comment dire ? Il y a un déclencheur. Il y a la découverte d'une photo dans les papiers familiaux à Noël 97, sur laquelle il y a ma grand-mère, que je reconnais parfaitement, et deux femmes, donc une femme et une jeune fille. Et j'interroge ma mère, qui est encore vivante à ce moment-là, et elle m'explique que ces deux femmes s'appellent Madame Epstein et sa fille Marianne, qu'elles sont arrivées à Angers après la nuit de Cristal, novembre 38.
La nuit de Cristal, c'est une nuit de pogrom en Allemagne.
Les hasards de la fuite ont fait qu'ils sont arrivés à Angers et qu'ils se sont installés dans un petit appartement tout près de chez mes grands-parents. Mon grand-père étant directeur d'école, il a appris assez vite le français à la jeune fille, à Marianne, pour qu'elle puisse aller à l'école. Elle est rentrée au collège du Bellay à la rentrée qui a suivi. Ils sont devenus amis avec cette famille et malheureusement, ayant subi ce qu'ils avaient subi en Allemagne, c'est-à-dire sachant les persécutions qui les attendaient, quand les Allemands sont entrés en France en mai-juin 40, ils ont fui le plus possible vers le sud. Ma mère ne se rappelait pas bien si c'était vers Poitiers ou Limoges, voilà. Moi, je savais tout le travail de Klarsfeld quant aux listes de déportation, aux convois, etc. Ça m'a toujours intéressé. J'avais bien aimé la façon dont Beat Klarsfeld avait giflé là, le chancelier d'Allemagne.
Les Klarsfeld, hein, ceux qu'on a appelés les chasseurs de nazis, je crois. Oui. Couple qui a aussi contribué à l'arrestation de Klaus Barbie.
Et de bien d'autres responsables nazis en Allemagne en particulier. Donc, je me suis dit, il y a moyen de savoir ce que sont devenus ces gens, j'en suis sûre. Puis j'ai écrit à Serge Klarsfeld, Palais de Justice Bordeaux, en disant, bon, est-ce que vous pourriez me dire, puisque je sais que vous avez travaillé, si la jeune Marianne Epstein, âgée de 16 ans, en 1942, a pu être déportée, etc. Et ils m'ont répondu, il m'a répondu dans les 10 jours qui ont suivi, en me disant qu'elle n'apparaissait pas à sa connaissance dans le mémorial des enfants, mais qu'il allait chercher, et qu'il m'engageait à chercher de mon côté. Donc je suis allée récupérer le mémorial de la déportation des Juifs de France.
Ah, sur la table, il y a une pile de documents. Il y a des photos, des cartes postales aussi.
J'ai trouvé à la bibliothèque d'Orléans. Et puis j'ai commencé à feuilleter ce bouquin.
C'est impressionnant, hein, des listes de noms.
Des listes, des numéros de convoi. Donc je me suis attelée à chercher là-dedans. Donc il y a des milliers de noms, hein, plus de 76 000. S'il n'y avait pas une famille de la famille Epstein. Et j'arrive au convoi 26 et je vois Lina Epstein, Siegfried Epstein et Maria Epstein. Pas de date de naissance, rien du tout. Et venant de Haute-Vienne, visiblement. Donc je me dis, à mon avis, ce serait bien ça. Mais je n'ai pas de preuves. Parallèlement, je sais qu'il y a un instituteur qui fait des recherches sur le Maine-et-Loire. Et donc je lui écris Et donc, il me répond assez rapidement, oui, dans les archives de Maine-et-Loire, il est question d'une famille Epstein, et là, il peut me donner tous les détails d'état civil. Donc, je vais écrire aux archives de la Haute-Vienne. C'est la démarche même, en fait, de l'historien, quoi, je crois. Et ils me répondent, oui, madame, nous avons trouvé tel document, telle cote, tel endroit, dans des listes de réfugiés, dans des cartes de textiles, etc., etc. Et ils apparaissent dans la liste des familles transférées au camp de Nexon après la rafle de la zone libre, dite libre, le 26 août 1942. Mais nous ne pouvons pas nous en dire plus. Et pratiquement en même temps, j'ai à nouveau des nouvelles de Serge Larsfeld, qui lui a fait directement des recherches, pas seulement pour moi, hein, mais pour d'autres enfants, aux archives de la Haute-Vienne, qui a trouvé un certain nombre de documents, et il m'envoie les photocopies. Donc on se dit, bon, bah, c'est absolument certain que c'est bien cette famille-là, quoi. Donc, je me focalise sur ce convoi 26, issu de l'arrestation du 26 août 42, donc en zone libre, hein, c'est-à-dire sans qu'aucun Allemand ne s'en mêle. Hein. C'est la rafle dont on parle encore moins que de celle du Veldiv, puisqu'elle ne concerne que les Français. Et donc, je regarde ce convoi et je m'aperçois que dedans se trouvent des dizaines de petits-enfants seuls. Ce sont tous les petits de la rafle du Veldiv qu'on a gardés au chaud parce que les Allemands n'en veulent pas et que maintenant on envoie vers les camps de la mort. Et mon sang de directrice d'école maternelle ne fait qu'un tour et je me dis c'est pas possible d'avoir fait ça. Tous ces noms, toutes ces listes-là, tous ces enfants, tous ces adultes et tout... On a été les chercher partout en France, donc on a bien dû aller en chercher près de chez moi, quoi. Puisque personne ne l'a fait, je me renseigne un peu, hein, j'ai au musée de la Résistance et tout ça, je m'aperçois que cette mémoire-là, elle est totalement ignorée. Enfin, il n'y a pas de mémoire, quoi, justement. Donc je commence par aller à la commémoration des déportés le dernier dimanche d'avril. Le dernier dimanche d'avril, il y a une cérémonie en la mémoire des déportés. Je vais à celle de Blois et je m'aperçois qu'il n'est pas question du tout de la déportation des Juifs. Donc je me dis, il faut faire quelque chose. Donc j'ai demandé l'autorisation, il fallait demander l'autorisation à ce moment-là, et donc j'ai commencé à travailler aux archives du Loir-et-Cher, dans les liasses qui concernent l'occupation. J'ai été reçue par une archiviste vraiment épatante qui m'a vraiment très très bien reçue, Madame Caro, et qui s'est montrée très intéressée par ce que je voulais faire. Et donc, qui m'a emmenée dans l'espèce de bunker là, des archives, qui m'a montré les linéaires où s'étalaient je ne sais combien de correspondances, listes, recensements, spoliations, affaires juives, épurations, enfin voilà. Et j'ai commencé à donc éplucher ces liasses qui, visiblement, n'avaient pas été ouvertes depuis, quoi. Voilà. J'ai trouvé forcément beaucoup de noms, beaucoup de listes, des arrestations, des recensements, j'ai découvert qu'il y avait des camps d'internement avant la déclaration, juste à la déclaration de guerre dans des villages autour de Blois. J'ai découvert qu'il y avait un camp d'internement à la Motte-Beuvron. Et puis, donc, j'ai trouvé plusieurs centaines de noms. Et là, je me suis attelée à croiser avec le mémorial ces centaines de noms. Et à chaque fois que j'en trouvais un, je notais, tiens, lui aussi, tiens, elle aussi, tiens, c'est, voilà. Et c'était à Blois, c'était à Savigny-sur-Braye, c'était à Saint-Claude-de-Diray, c'était dans les villages que je connaissais, quoi.
C'était partout en France, hein. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer, Cédric, dans une émission précédente. La France des années 30 était déjà couverte de camps.
Oui, c'est-à-dire que le principe d'internement de tout un tas de gens jugés indésirables avait commencé dès la Troisième République. Les institutions et l'administration républicaine avaient déjà pris l'habitude, par exemple, d'interner, à partir de 1938, les Espagnols républicains réfugiés. Et dans l'administration, on avait déjà effectivement pris cette habitude de classer les gens en fonction de leurs origines et, dans le droit, de cibler des gens d'origine étrangère. C'est ainsi qu'il y a des mesures discriminatoires de la part des médecins contre des collègues nés étrangers. Et en 1935, il y a des interdictions d'exercice pour ces médecins. Il y a des Français pas comme les autres. Et puis, il y a des étrangers. Et on voit que commence à se mettre en place des catégorisations en disant lui a moins de droits qu'un autre, lui doit être interné. Ces mesures se sont mises en place contre les étrangers, contre des gens d'origine étrangère. Et donc, quand Vichy est arrivé dans sa logique discriminatoire antisémite, l'appareil d'État était déjà prêt. L'appareil d'État était mentalement prêt à accepter, surtout dans le cadre de l'effondrement de mai-juin 40, était prêt à accepter beaucoup de choses. Et c'est comme ça que tout compte fait le statut des Juifs, puis une avancée régulière dans la collaboration toujours plus en avant, a été acceptée, pas par tous, mais par une majorité de fonctionnaires du bas de l'échelle. Le policier, le juge.
Mais pas que.
Jusqu'au plus haut degré de l'administration française, y compris chez des gens qui n'étaient pas engagés dans des partis d'extrême droite, etc.
Et y compris chez des gens qui n'étaient absolument pas antisémites et qui sont après, voire simultanément, entrés dans la résistance. Enfin, j'ai trouvé dans le Loir-et-Cher, par exemple, que celui qui s'occupait des affaires juives a été résistant dès 1942. Et a été promu à la Libération secrétaire général de la préfecture, puis sous-préfet. Donc c'est un petit papon local. Il a fait le sale boulot jusqu'au printemps 1944. Par exemple, il y a un petit document qui est très intéressant aux archives du Loir-et-Cher aussi. Il s'agit du bulletin du comité départemental de libération. Des gens, en principe, de gauche, voire très à gauche. Tout en bas de ce petit document, il y a un petit article intitulé « Loi raciale ». En attendant les instructions du gouvernement transitoire, il y a lieu de suspendre l'application des lois raciales en ce qui concerne les personnes de nationalité française. Ça veut dire qu'en septembre 1944, parmi les libérateurs, il y a encore des gens qui trouvent normal de discriminer les juifs étrangers.
Mon cher ami, qu'est-ce que cette grande statue de plâtre que je vois au fond ?
Eh bien, cette statue de plâtre a pour but d'abord de montrer les caractéristiques ariennes.
Ah bon, cette femme avec un enfant, c'est l'arienne, n'est-ce pas ?
Oui, c'est l'arienne.
La mère.
Ça. La mère avec son enfant. Et puis au-dessous, voyez-vous, on voit le juif dominant le monde et essayant de dominer l'arien.
C'est ça, ce juif qui est à ses pieds avec le nez et la barbiche,
oui, oui,
en serrant dans ses mains un globe qui est sans doute le globe humain, le globe terrestre.
Oui, 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 tout simplement.
Parfait.
Oui.
On évoque aujourd'hui les rafles opérées en France par des Français en uniforme pendant l'occupation avec vos deux historiens du jour, Yvette et Cédric. Et on peut s'étonner de la quantité d'archives générées par le crime des nazis et par leurs auxiliaires français. Or, comme va vous le rappeler Cédric, selon les nazis, ces crimes de masse ne devaient pas laisser de traces.
Donc le 21 janvier 1942 a lieu une réunion dans la banlieue de Berlin, à Wannsee. Donc se réunissent un certain nombre de hauts dignitaires nazis, mais pas de première importance, si ce n'est celui qui encadre la réunion, à savoir Heydrich. Sinon, ce sont plutôt des administratifs, des gens qui ont en charge la gestion technique, logistique des choses. Et le but est de mettre en place, pour l'ensemble de l'Europe, un processus de déportation vers des camps d'extermination jugés plus efficaces que les méthodes qui ont été employées jusque-là, qui consistaient par l'intermédiaire d'Einsatzgruppen, de groupes d'élimination, à balayer les Juifs d'Europe de l'Est en les massacrant au fusil.
C'est ce qu'on aura appelé la Shoah par balle, qui montrera ses limites logistiques, si j'ose dire.
Limites totalement.
Et humaines.
Le processus devenait inefficace au fur et à mesure qu'il avançait. En plus, ce processus de Shoah par balle semble inadapté à l'Europe de l'Ouest, où les communautés juives sont moins nombreuses, plus dispersées, et où l'opinion publique, jugée moins antisémite, n'accepterait peut-être pas ce genre de méthode. Et donc, il faut mettre en place un processus de déportation qui vise à extraire ces juifs, alors les repérer, savoir où ils habitent, etc., les capturer, les transférer, et les éliminer dans des régions lointaines où les gens ne verront pas. L'élimination finale doit rester secrète. La solution finale, justement, c'est le plus grand secret. Cependant, pour emmener les Juifs de là où ils habitent jusqu'au lieu d'extermination, cela suppose toute une série de mises en place de logistique qui nécessite, par essence, des administrations, des rapports, des fiches, Et les Allemands ne peuvent pas tout faire. C'est impossible pour eux. Ils ne peuvent pas couvrir toute l'Europe, même si l'Europe est sous leur domination. Ils ne peuvent pas faire tout ce travail. Ils manquent de bras, ils manquent de cerveau. Et donc, ils vont faire retomber la plupart de ces étapes, légiférer, recenser, ficher, spolier, marquer, arrêter, regrouper, interner, transférer, déporter. Mais toutes les étapes intermédiaires vont retomber, en fait, sur les administrations locales, des administrations soit directement sous leur coupe, par exemple en Belgique, aux Pays-Bas, où ils dominent par l'intermédiaire du gouvernement militaire, ils dominent directement les administrations, ou bien faire accepter par des gouvernements alliés ou amis, tels la France de Vichy, ce processus. Faire accepter ce processus à Vichy, ça prend du temps, ça se négocie. Hein, donc entre janvier et juillet, il y a toute une série de négociations qui se mettent en place. Et dans l'administration de Vichy, il y a des divisions. À l'évidence, ils ne sont pas tous d'accord sur le fait d'accepter ou non la déportation des Juifs de France. Alors voilà, les Juifs de France, Juifs français ou pas Juifs français, Juifs étrangers, Juifs apatrides, en zone nord, en zone occupée, en zone sud. Là, il y a tout un tas de discussions au sein de l'administration. Et c'est pour ça que l'histoire est dure à reconstituer. C'est que justement, c'est pas uniforme. Et il y a des réactions très différentes sur le terrain.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
On aime son pays parce qu'on aime son village.
Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
La France a failli périr de la juiverie, mais le danger est-il définitivement écarté? C'est à vous de répondre. Écrivez-nous. Nous devons tous nous unir pour combattre les ennemis de l'intérieur. Aidez-nous dans notre tâche. Votre témoignage vous sera précieux. Les lettres doivent porter l'adresse suivante. Émission Les Juifs contre la France, 116 Champs-Élysées, Paris 8e.
Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Si les étoiles jaunes s'étaient montrées chez nous il y a 10 ans, on aurait vu clair.
C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs.
Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous.
Oh, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue.
Rafle du Vélodrome d'hiver, rafle en zone dite libre. Été 1942, les autorités françaises arrêtent par milliers des Français juifs pour les livrer aux nazis. Partout en France, l'administration française devient une arme. On parlera même de crimes de bureau. Crimes dont Yvette, historienne, étudiera les traces dans les archives.
Je pense que tout bêtement, je veux dire, l'administration administre, quoi. Depuis le début du XXe siècle, la masse des documents demandés par l'administration au sujet des citoyens est de plus en plus importante. les réglementations se multiplient, etc. Et donc, y a de plus en plus de renseignements sur les gens. Les recensements sont faits, mais ça depuis longtemps. Et puis, il me semble que ça culmine sous Vichy. Il y a vraiment une prolifération de ça, y compris au niveau statistique. Je crois que l'INSEE, par exemple, a été créé sous Vichy. On fait des fiches, on classe, le fichier de la préfecture de police à Paris, par exemple, il y a plusieurs entrées pour retrouver les gens. Comme ça, on est sûr de les avoir. Enfin, c'est une espèce de machine infernale, l'administration. On fait le boulot et on ne s'occupe pas forcément de savoir les conséquences que ça va avoir, quoi. Il n'y a pas de fichier juif avant Vichy. Les juifs qui se trouvent dans les camps d'internement du début de la guerre, c'est-à-dire avant Vichy, sont là comme en ressortissants du Reich, il y a des Tchèques aussi, et pas comme juifs. Bon, il se trouve que la majorité, la très grande majorité est juive, parce qu'évidemment, qui s'est réfugié, qui a quitté l'Allemagne, ben c'est essentiellement eux, mais l'internement ne se fait pas sur ce critère-là. Par contre, le fait que ces personnes étaient déjà internées avant la période de Vichy a facilité le fait qu'ils rentrent dans la machine infernale après, quoi. On peut dire à peu près que 25% des Juifs résidents en France ont été déportés. J'avais fait le calcul, dans les camps de Villemalard, Villerbon, etc., à côté de Blois, eh bien, c'est 42% des internés qui se retrouvent déportés. Ça veut dire qu'une fois qu'on est rentré dans la machine administrative, c'est difficile d'y échapper, quoi. Au début, les nazis ne demandent pas les enfants. Hein. C'est pour ça que les enfants sont séparés des parents. Ils restent dans les camps du Loiret, puis à Drancy après. Donc c'est dans les négociations dont parlait tout à l'heure Cédric, entre Bousquet et Auberg, que le sort des enfants est tranché. Alors moi, je voudrais insister quand même sur la particularité de cette fameuse rafle de la zone sud. C'est en Europe la seule rafle de juifs qui a lieu dans un endroit où aucun nazi ne se trouve. C'est la seule. Le 26 août 1942. Il y a une multitude de circulaires qui, vraiment, dans le détail près, organisent ces arrestations et ces rafles et ces regroupements. C'est vraiment un travail administratif important. Et aussi, on peut dire que la France, c'est aussi le pays occupé qui a sauvé le plus de Juifs, puisque les trois quarts de la communauté ne sont pas déportés, et en particulier beaucoup d'enfants. Ce que je pense aussi, c'est que les dirigeants, l'administration sont vraiment mouillés. Enfin, je veux dire, c'est assez lamentable la façon dont ils ont agi. Mais les gens ordinaires, les gens du peuple, ont été capables de faire des actions, certes beaucoup moins reluisantes que celles de certains résistants qui faisaient sauter les trains, etc. Mais le fait d'organiser des filières d'évasion, de cacher les enfants, il a fallu qu'énormément de gens s'en mêlent pour que ça fonctionne, quoi. Et il y a des villages entiers, par exemple dans le Loir-et-Cher, il y a Pezou, il y a des villages entiers qui ont caché des dizaines de gosses, quoi. Ou dans les protestants, là, aussi, des Cévennes. Il y a vraiment de tout dans une population. C'est comme une courbe de Gauss en maths. Hein. Dans une population, il y a à peu près, on va dire, 10% de héros, alors avec plein de guillemets, hein. 10% de salauds avec aussi plein de guillemets. Et puis tout le reste, qui ne sait pas, qui attend, qui ne sait pas de quel côté il va tourner, vers les salauds, vers les héros, vers pas, vers... voilà, donc c'est... L'humanité, elle est comme ça. Elle est capable du meilleur et du pire.
Il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus que la race. C'est dans ce creuset de la race que se fondra la France future, qui regagnera son territoire, qui regagnera son empire, qui regagnera son armée, qui regagnera sa marine, qui regagnera surtout son esprit.
Dès octobre 40, le régime de Vichy bascule dans l'antisémitisme en mettant en place le statut des Juifs. Mais 1940-1941, on reste dans un antisémitisme d'exclusion, Il n'y a pas de volonté exterminatrice. On est dans cette vieille extrême droite de l'affaire Dreyfus, qui veut repousser les juifs de la communauté nationale, qui les juge inassimilables, dangereux pour la communauté, donc il faut les stigmatiser. Mais au cours de 1941, déjà, en zone nord, s'institue une politique différente par les nazis, qui est de la spoliation avec l'aryanisation des biens, le marquage par l'étoile jaune. Il n'y a pas d'étoile jaune en zone sud, par exemple. Voilà, Vichy ne met pas l'étoile jaune.
C'est juin 1942.
Il y a deux formes d'antisémitisme qui ne sont pas les mêmes. Et l'été 1942, justement, c'est l'évolution dans le gouvernement de Vichy de la tendance dure qui vise à s'aligner sur l'antisémitisme nazi, qui est un antisémitisme d'extermination, dont le but est l'extermination de tous les juifs européens.
Et qui se passe simultanément en Europe, justement dans cet été 1942. Hein, les grandes déportations là, du ghetto de Varsovie et tout ça, c'est l'été 1942.
Donc on voit la mise en avant d'un certain nombre d'éléments de personnes qui vont accepter l'antisémitisme d'extermination. Parce qu'on nous a fait le sketch qu'on ne savait pas ce qui leur arrivait. Il ne fallait pas être grand clair pour se demander, au moins se poser la question, qu'allaient faire les Allemands de tous ces juifs en embarquant des vieillards, etc. On savait très bien qu'au minimum, ils allaient dans des camps de concentration. On savait très bien ce qui se passait dans ces camps de concentration. Au pire, on savait qu'ils allaient les éliminer à plus ou moins brève échéance. L'excuse comme quoi on ne savait pas, non, c'est faux. Donc, il y a une tendance lourde au sein du gouvernement et des administrations qui prend l'ascendance, c'est celui d'un alignement sur les Allemands.
On aime son pays parce qu'on aime son village. Pour moi, Français, je voudrais que demain, nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Elle doit, avec d'autres, consentir d'immenses sacrifices. Et elle ne ménage pas le sang de sa jeunesse. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
Alors cet alignement sur les Allemands, par quoi est-il provoqué? Par une haine antisémite féroce? Oui, pour certains, pas pour tous. Par exemple, sur l'histoire de la rafle du Veldiv, très clairement, la volonté de Laval et de ses seconds, qui acceptent d'organiser totalement la rafle du Veldiv, parce qu'il n'y a pas un Allemand qui intervient dans la rafle du Veldiv, si ce n'est on désire arrêter 22 000 juifs, on donne un quota, c'est 22 000 juifs pour la région parisienne. Les Allemands ne font rien d'autre. Pourquoi fait-il ça? Par antisémitisme, oui, sûrement, Laval était antisémite, mais sans plus, hein, c'est pas... Mais parce qu'il faut donner des gages à l'Allemagne, de bonne conduite, d'alignement sur sa politique, en espérant retirer quelques avantages, assouplissement de la ligne de démarcation, retour des prisonniers, hein, ce retour des prisonniers qui est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus du gouvernement français. Il y a plus d'1,5 million de Français prisonniers en Allemagne. Les Allemands font des promesses très vagues de libération anticipée de prisonniers, d'assouplissement de la ligne de démarcation, d'un ravitaillement plus opulent pour la population, et de voir qu'ils acceptent. Et à partir de là, ils vont y mettre tout le zèle de l'administration française et toute l'efficacité de l'administration française. L'administration française est très efficace. Et malgré son efficacité de ses services administratifs, de sa police, de sa justice, de ses services de transfert, etc., seulement 13 152 juifs, de mémoire, sont arrêtés pendant la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. L'objectif, c'était 22 000 qui étaient fichés. Ils en arrivent 13 000. Ça veut dire qu'il en manque grosso modo 9 000. Ça montre que justement, il y a eu des divergences, il y a eu des fuites au sein de l'appareil administratif. Il y a eu des fuites, il y a des policiers qui ont prévenu les gens. Ça pouvait être de l'entourage direct, etc. Il y a des policiers qui ont fermé les yeux. Ils frappaient, ça répondait pas, ils n'allaient pas plus loin. Certains défonçaient les portes. Et donc là, justement, c'est de montrer toute cette humanité dont tu parlais, extrêmement différente. Voilà, on peut pas dire l'administration française a collaboré tout de go avec l'Allemagne. Et non, c'est plus compliqué. Il y a des endroits où ça freine, il y a des endroits où ça accélère. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir à la mode Beuvron le sort des internés juifs au printemps 1942. Ils sont déportés en la fin du juillet 1942. Hein, ils sont envoyés à Pithiviers, et puis ensuite, ils sont déportés à Auschwitz. Le préfet rogne sur tout. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des conditions sanitaires, d'alimentation absolument catastrophiques, les rapports des médecins sont catastrophés, etc. Mais alors on se dit, ouais, mais il agit par antisémitisme, il n'aime pas les juifs qui l'internent. Non, quand on regarde les rapports, c'est même pas ça, c'est il me coûte cher. Ces gens-là me coûtent cher. Moi, je veux pas dépenser un sou pour eux. C'est les Allemands qui me demandent de les interner. Moi, je les interne, mais je veux pas payer les coûts. Donc, ils diminuent, ils serrent les coûts au strict minimum. Et quand il reçoit des lettres de paysans soloniaux demandant est-ce qu'ils ne pourraient pas utiliser la main-d'œuvre, ces gens-là hein, qui... Voilà, il l'avait déjà fait avec les Espagnols, il l'avait déjà fait avec les indésirables, des étrangers qui étaient en zone côtière, qui avaient été rapatriés là en 1940 et 41. Ils disent est-ce qu'on ne pourrait pas les faire travailler? Lui dit pourquoi pas, mais moi, je n'ai pas la décision. Et quand il fait remonter en disant est-ce qu'on peut aller les faire s'égayer dans les campagnes pour qu'ils aillent travailler et gagner un peu de salaire, pour gagner un peu d'argent, pour se payer du savon, de la nourriture, etc. Alors là, tout de suite, le SD à Orléans dit « Nein, vous les gardez au chaud, là, c'est au mois de mai-juin », ils disent « Vous les gardez au chaud ». À partir de ce moment-là, ça commence à se méfier dur, il y a 2-3 évasions. Et là, chose surprenante, c'est le commandant du camp qui signale les évasions.
Commandant français,
gendarmerie française, qui envoie un rapport en disant il faudrait les enfermer plus strictement, il faut construire une palissade.
Donnez-moi des sous pour construire une palissade.
Alors il envoie ça au préfet, les Allemands, ils ne demandent rien. Ils demandent strictement rien. Et là, de voir que c'est l'administration française qui fonctionne en son sein, avec des stimuli locaux, en disant que le gendarme, il veut bien faire son travail, il surveille les gens, il y a des gens qui s'échappent, il dit donnez-moi les moyens de garder ces gens correctement, construisons une palissade. Le préfet, il va répondre non, parce que ça coûte trop cher. Puis de toute façon, c'est déjà enclenché, et l'ordre de transfert arrive dans la foulée, et c'est terminé.
Voici maintenant, mes chers auditeurs, à Beaune-la-Rolande. Le camp, ici, est invisible aux promeneurs non avertis, car il a cependant son entrée en plein village. Un mirador ou un gendarme veille jour et nuit. Ce camp est plus important que celui de Pithiviers, puisqu'y sont internés, me dit le capitaine qui le commande, 2096 hommes. Ces hommes sont répartis en 20 baraques, grises et blanches, les mêmes qu'à Pithiviers, c'est-à-dire des baraquements de bois avec soubassement de ciment. Et ces baraques sont situées toutes parallèlement au centre de l'enceinte des Barbelés. Les Juifs grouillent ici sur un espace légèrement moins vaste qu'à Pithiviers. Ici, tous seront égaux. Sur ces confins de la terre beauceronne, est-ce qu'ils sentiront naître en eux ce qui a toujours manqué à leur race depuis les patriarches, l'amour de la terre et des travaux des champs? Il est malheureusement permis d'en douter. Qu'importe s'ils ne veulent pas comprendre la grande et austère leçon de ce paysage du grenier de la France, de la rude et laborieuse population de cette Beauce, du moins auront-ils débarrassé Paris de leur très indésirable présence.
L'histoire n'est jamais finie. Par définition, c'est une science humaine. Alors déjà, les sciences dures ne sont jamais finies, mais là, l'histoire, elle n'est jamais finie. Yvette, vous vous apprêtez à faire une commémoration sur laquelle il y avait 976 juifs d'Indre-et-Loire déportés, et finalement...
77. Voilà, on en trouve... donc on va arrêter, on arrête la liste là, parce qu'on prépare une grande cérémonie, entre guillemets, le 30 septembre. Donc il y a 977 déportés juifs à partir de la Touraine. Et c'est la première fois, on est 70 ans après, qu'on va dire ces noms-là. Et aussi qu'on va dire les dates des rafles, quand même, parce que c'est jusqu'en 1944.
Et cette chose-là n'avait jamais été faite.
Non, ça n'a jamais été fait.
Parce qu'il y a un gros travail qui est nécessaire.
C'est un énorme travail. Vraiment, il faut éplucher, des kilos d'archives, pour pouvoir établir ça. Il faut faire des croisements multiples, il faut écouter des témoignages. C'est des heures de travail pour arriver à faire ça de façon précise. Et là, vous voyez, on arrive à 977, on s'arrête. Mais il est fort possible, fort probable qu'on en retrouve encore quelques-uns dans un petit moment. Et alors, il y a aussi, c'est pour la première fois que j'ai eu cette... finalement, heureuse surprise, un des jeunes repéré comme déporté au lycée Descartes, donc Georges Mendès, on retrouve sa fiche à Drancy, il y a un acte de disparition, et puis en fait, là, vous voyez, avec une autre source, une fiche d'état civil venant de son lieu de naissance, eh bien, on s'aperçoit qu'il est mort en 1994. Ça veut dire qu'il a survécu aux persécutions. Alors, sur tout l'ensemble de mes recherches, c'est la première fois que ça arrive. Ça fait plaisir, quoi. On se dit, lui, au moins, il est revenu. Et en plus, il a eu 3 enfants.
C'est justement ce travail d'histoire qui est un travail long, méticuleux, qui permet de comprendre effectivement toutes les nuances à apporter à, à cette histoire. Alors ensuite, les commémorations officielles se multiplient. Elles sont nécessaires pour rappeler les responsabilités de l'État, de l'administration. Elles sont là aussi pour marquer l'opinion publique. Mais il y a une tendance dommageable, c'est que cette mémoire collective, en fait, dédouane les individus de leur mémoire individuelle. Que n'entend-on pas oui, on en parle tout le temps, non, mais finalement, en fait, ils savent pas grand-chose, quoi. La majorité de la population, c'est pas grand-chose, alors qu'on a l'impression qu'on ne parle que de ça. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, c'est le fruit d'un refus interne de se questionner personnellement sur sa famille, sur ses proches. Est-ce qu'on n'est pas tout compte fait concerné par cette histoire
Sur le grand-père ou l'arrière-grand-père qui était gendarme du côté de Beaune-la-Rolande
Voilà, c'est ce genre d'histoire. Tout compte fait, on tente de refouler instinctivement. C'est intéressant parce que cette accusation, genre on en parle de trop, ou bien de toute façon on ne savait pas. Ce genre de choses n'est pas nouvelle. Dès l'après-guerre, il y a déjà ce double sentiment en disant « Oui, bon ça, déjà, on en parle déjà de trop, que ce soit les déportés politiques ou les déportés juifs. » Et de l'autre côté, en voyant les images, les témoignages, « Oh, mais de toute façon, on savait pas. Donc, on n'est pas responsable. » Ça semble complètement antinomique. En fait, non. C'est une volonté de créer une distance entre soi et l'événement qui est de dire « Ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. » Et l'histoire d'Yvette... Son histoire familiale nous montre que tout compte fait, ça peut nous concerner.
Maintenant, il ne faut pas trop s'apitoyer, si vous voulez, sur le sort de ces hommes qui, en toute autre circonstance, il faut bien le dire, auraient déjà été depuis longtemps chassés de France et qui vivaient chez nous absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les métèques échappés des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cour des miracles dans Paris, se livrant à leur buddy commerce. Et qui maintenant se trouve rassemblée ici, et je vous assure que c'est une mesure de salubrité publique qui a été prise enfin en France occupée, alors qu'elle avait déjà été prise depuis plusieurs mois en France non occupée. Les hommes marchent, en ce moment je les aperçois au soleil, il y en a qui vont s'asseoir là-bas, dans les prairies, dans les pelouses, qui sont à l'intérieur du camp, mais qui entourent les baraquements, ce qui fait que ces hommes ne perdront pas ici l'habitude de la marche, à laquelle ils ne s'étaient d'ailleurs pas souvent bien habitués. Je crois qu'ils étaient plutôt habitués à être assis en tailleur au fond de leurs échoppes. Il est certain que ces hommes ne resteront pas inactifs et qu'on pourra les employer à des œuvres où ils pourront travailler utilement de leurs mains, de leurs bras, de leurs jambes, ce qui les changera sans doute des métiers sédentaires auxquels ils étaient habitués. Et je ne doute pas que cette cure de plein air, que cette cure de vie un petit peu rude, ne leur fasse physiquement, et en tout cas moralement sûrement, le plus grand bien.
Même le camp de la Motte-Beuvron, c'est typique des petits camps français.
Dans le Loir-et-Cher, dans le 41.
C'est un camp qui commence par accueillir, entre guillemets, les républicains espagnols, en 38, et puis qui, donc, après accueille, entre guillemets, des indésirables, ce qu'on appelle des indésirables expulsés des zones côtières, du Calvados en l'occurrence, dans lequel se trouvent des étrangers, mais aussi des nomades. Ces populations-là ne sont pas déportées. Après, c'est très différent le sort des internés juifs qui, eux, n'échapperont pas. Par les nomades, par contre, les nomades arrivent à la Motte-Beuvron. Et ils sont transférés, je crois que c'est en 1941, ils sont transférés à Jargeau, au camp de Jargeau dans le Loiret, le grand camp des nomades. Et ceux-là, aussi bien à Jargeau qu'à Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire, ils restent enfermés jusqu'en 1946.
Et la Motte-Beuvron, j'avais fait une petite bafouille auprès des habitants, et c'était intéressant parce qu'il y avait un public assez âgé. Il le savait depuis qu'Yvette avait mis le point dessus. Donc, il savait ce qui s'est passé. Et suite à un échange, il me disait mais vous savez, on ne savait pas à l'époque. Ils avaient l'impression de s'excuser, de se sentir coupable, alors qu'à l'époque, c'était des petits-enfants. Ils ressentaient une forme de culpabilité. Et j'avais discuté notamment avec un ancien qui disait mais vous savez, quand on était jeune, on nous disait surtout de ne pas s'approcher de cet endroit-là. D'abord, avant, c'était un ancien sanatorium, donc il y avait tuberculeux. Donc déjà, c'était un non-lieu. Il ne fallait pas s'approcher de là. Ça a fait faillite en 38, c'est pour ça qu'ensuite, ça a servi de lieu d'internement, relativement confortable. Hein.
Par rapport au camp de Poitiers, pour les Juifs qui sont arrivés en mars, c'était le paradis, quoi, au début. Hein. C'était le printemps, il y avait un parc, un bâtiment en dur, donc ils ont cru qu'ils étaient sauvés, quoi.
Ce lieu est devenu, en fait, un non-lieu. il fallait pas s'en approcher. Et pendant la guerre, les parents retenaient les enfants en disant surtout n'allez pas voir ces gens. S'ils sont gardés, c'est peut-être qu'ils sont dangereux, etc. Il fallait limiter au maximum les contacts, d'abord avec les Espagnols, ensuite avec les indésirables, puis après avec les Juifs. Il avait le souvenir assez net de ces gens qui étaient partis un petit matin d'été en colonne avec des gendarmes. Ensuite, plus personne n'en a parlé. Pourtant, tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu les gendarmes, le convoi qui partait.
99 juifs
et 21 gendarmes.
C'est sur le billet de la SNCF.
Ça, tout le monde l'a vu, tout le village l'a vu. Tout le monde savait, hein. Tout le monde a bien vu qu'après, il n'y avait plus personne dans le camp, que le camp avait été désaffecté. Et ils les ont vus, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que, tout compte fait, ils se sentaient coupables. De n'avoir rien fait, d'avoir laissé filer les choses.
Ou d'avoir été content.
Ou d'avoir été content.
Je crains qu'il y ait aussi ça.
C'était gardé par 8 gendarmes, donc ces gendarmes avaient de la famille, l'épicier livrait des biens, donc il y avait quand même des contacts. Et,
il y a un des anciens gendarmes qui est mort à la Motte-Beuvron à l'âge de 100 ans, il n'y a pas si longtemps que ça.
On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça parce qu'il y a une chape de plomb, il y a une culpabilité. Alors voilà, c'est facile de dire, on ne savait pas, comme ça on se dédouane. Et puis on en parle de trop, parce que tout compte fait, on se sent aussi coupable, donc on en parle de trop. Et donc cette ambivalence-là, elle est réelle jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire qui est difficile à...
Un certain nombre aussi en savaient assez pour ne pas avoir envie d'en savoir davantage, quoi. Ils préféraient pas savoir. Dans l'opinion publique, après toutes ces rafles, aussi bien en zone nord que... En zone sud, il y a quand même eu une réaction de désapprobation de l'opinion publique. Et il y a eu même Mgr Saliège, là, qui est très connu, qui a fait lire dans toutes les églises de la zone sud une lettre vraiment de protestation sur toutes ces arrestations et la façon dont ces gens ont été traités, quoi.
Les rapports de préfet, chaque mois, le préfet devait faire un rapport sur tout un tas de choses, l'occupation, le ravitaillement, etc., les rapports avec les autorités occupantes, et sur l'état de l'opinion publique. Et dans de nombreux, moi j'en ai vu 3, hein, dans les rapports de préfet de 3 départements, ils marquent que l'opinion publique est choquée par les rafles. La population... Comme souvent, il est dit, n'a aucune sympathie pour les Juifs.
Il ne faut pas exagérer quand même, quoi.
Et les coups de crosse qui arrivent, les gens ramassés de force, ça les a choqués.
On n'aime pas trop les Juifs, sauf quand c'est ceux qu'on connaît et que c'est les gosses du voisin qu'on vient rater, quoi.
Il y a ça, il y a aussi la violence qui devient visible. C'est-à-dire que la violence administrative de ségrégation, voilà. De paupérisation, de spoliation... Voilà. Tout compte fait, elle correspond à une vieille logorée, les Juifs sont riches, les Juifs sont ceci, les Juifs sont cela, donc on leur pique un petit peu leur argent, leur maison, voire quand on peut en profiter indirectement en récupérant les biens.
Il y a quelques lettres qui sont croquignolettes comme ça aux archives, hein. Du genre de monsieur de choses, de machin, qui dit qu'à l'occasion des affaires en cours, il aimerait bien acquérir soit une propriété, soit un commerce, je crois, dans les archives de Loir-et-Cher. C'est assez, assez incroyable à lire aussi, ça. Il y en a plusieurs.
Mais de voir que lorsqu'on passe à la violence physique visible...
À l'été 42, c'est beaucoup, beaucoup des enfants. Et dans les dernières rafles, par exemple, la dernière rafle de Tours en janvier 44, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de vieillards. De gens âgés, voire très âgés, qui ont fait monter dans les trains.
Maire de Drancy.
Actuellement, Drancy n'a pas bonne presse. Non pas à cause de ses habitants. Et vous devinez ce que je veux dire, il y a une prison.
Hélas.
Hein?
Hélas.
Ils ne sont pas de Drancy, monsieur le maréchal. Oui.
Mais ça doit vous gêner, tout ça.
Oh, énormément.
Il est peut-être temps d'introduire une dimension polémique dans cette émission dédiée aux rafles de juifs de 1942, un questionnement autour du mot hébreu « Shoah », mot popularisé par le documentaire de Lanzmann. Ce mot « Shoah », qui désigne le martyr des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-il pas excluant vis-à-vis des autres déportés ? Résistants, syndicalistes, communistes, prêtres, homosexuels, nomades ? Selon Cédric et Yvette, vos deux historiens pour aujourd'hui, il y a une spécificité dans la persécution des Juifs en France sous l'occupation. Et pour Yvette, l'usage du mot Shoah n'occulte en rien les autres déportations.
Que la déportation des Juifs, mais sans exclure rien du tout, puisque par exemple, en ce qui concerne le génocide qui a eu lieu au Rwanda, donc les survivants se sont adressés tout simplement au mémorial de la Shoah pour les aider à travailler sur l'histoire de leur génocide propre. que les victimes nomment leur catastrophe, je trouve ça parfaitement normal. Sous Vichy, les seules personnes qui ont été déportées vers les camps d'extermination sont les juifs parce que juifs. Les homosexuels qui ont été déportés l'ont été de la région Alsace-Lorraine, pas sous la responsabilité de Vichy. Et les nomades sont restés en camp plus longtemps que les autres, jusqu'en 1946, mais ils n'ont pas été envoyés dans les camps d'extermination à partir de Vichy. Je trouve ça parfaitement normal de traiter du sujet à part, parce qu'il y a eu une, entre guillemets, législation antisémite. Il y a eu un droit antisémite. Ne pas dire la singularité de cette chose-là, eh ben c'est nier quelque part qu'il y a eu ce droit antisémite et cette législation. Ces gens-là ont été déportés au nom de la loi, et simplement parce qu'ils étaient nés, pas parce qu'ils faisaient ou pour leurs idées, mais parce qu'ils étaient nés.
Cédric, qu'est-ce que tu penses de mon interrogation au sujet de ce mot Shoah ? Est-il excluant vis-à-vis des déportés non-juifs ?
Il n'est pas excluant, mais il est ressenti comme excluant par une partie des personnes. Pourquoi ? Comme on l'a dit tout à l'heure, la mémoire et la singularité du phénomène de la Shoah n'a été mise en évidence que très tardivement. Et donc pendant très longtemps, on a parlé de la déportation de façon générale, avec un accent mis, pour des causes de politique interne, sur la déportation des résistants français. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de la déportation des homosexuels. Bon, on parle toujours très peu, mais alors là, c'était un truc dont on ne parlait absolument pas. Et donc, était mis en avant, c'était les camps, c'était Ravensbrück et Buchenwald. C'était les camps des années 60. Donnez-nous un exemple de camp, tout le monde disait Buchenwald ou Ravensbrück pour les femmes. On avait gommé la mémoire juive pour des raisons diverses et variées, des raisons de politique intérieure.
Paris, levez, debout pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
Dans l'après-guerre, De Gaulle, désirant revigorer et unifier la France, a mis en avant la France comme un pays de résistants, et donc il fallait porter au pinacle le sacrifice et les efforts des résistants. Et c'est pour ça que, de façon tout à fait normale, on a mis en avant le sacrifice de ces hommes pour une idée.
Avec les communistes.
Avec les communistes pour des raisons autres, mais tous dans un but politique de conquérir le pouvoir politique et d'affirmer la France sur la scène internationale, de la montrer comme une puissance vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et pas comme une puissance qui avait collaboré, etc. On a mis en avant le rôle sacrificiel de ces hommes et de ces femmes qui avaient combattu pour que la France soit libre. Et donc ça a été une démarche qui a complètement éclipsé les autres formes de déportation sur les autres catégories de déportés, et notamment les juifs, sur lesquels, par exemple, on retrouve sur les certificats de décès pour des petits-enfants de 2-3 ans morts pour la France. On a l'impression qu'ils avaient pris une baïonnette et qu'ils avaient été se battre, quoi. Quand la mémoire juive s'est réveillée dans les années 70, et qu'un certain nombre d'historiens et de témoins, de survivants, etc., ont mis en avant cette particularité, cette spécificité de la Shoah, qui n'est pas le même processus. C'est un processus singulier, c'est un processus différent. Une victime juive n'a pas plus de valeur qu'une femme déportée dans... C'est pas la question. C'est que c'est différent. C'est deux choses qui sont différentes et qu'il faut bien identifier assez clairement pour rendre justice à la mémoire de chacun. Un petit enfant juif qui meurt à Auschwitz n'a pas plus ou moins de valeur qu'une résistante mourant à Ravensbrück sous les coups de ses bourreaux. Mais justement, pour valoriser le rôle de la résistance et le sort qu'on a infligé à cet enfant, il faut faire la différence. L'accent a été porté là-dessus. Et donc, un certain nombre d'associations de déportés ont ressenti ce renouveau de la mémoire juive comme une agression et une atteinte à leur douleur à eux. ce qui peut se comprendre. C'est une réaction humaine, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, qui éclipse dans les médias, etc., qui éclipse un peu ce qui a été la mémoire dominante jusque-là. Et donc forcément, ça crée des tensions très vives, surtout que en mettant en évidence les mécanismes administratifs de la Shoah, a été mise aussi en évidence le rôle qu'ont pu avoir un certain nombre de vichisto-résistants, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des gens qui étaient des résistants véritables, mais qui servaient dans l'administration, mais qui fournissaient des renseignements à De Gaulle, etc., justement en profitant de leur rôle de préfet, de machin, etc., mais qui, dans la machine administrative de Vichy, appliquaient les lois antisémites, ont participé aux mécanismes de déportation. Et dans le Loir-et-Cher, on a le cas. On a un préfet qui est un authentique résistant, indéniable, qui mourra en déportation. Et qui a appliqué la législation antisémite, qui était aux ordres de Vichy, mais conforme à ce que lui demandait Vichy. Mais en sous-main, effectivement, il a joué un rôle actif de résistant. Et comme il est mort en déportation, quand Yvette a mis en évidence...
que c'était lui qui avait réglé le sort des Juifs de la Motte-Beuvron, en fait. Enfin, qui avait obéi aux ordres allemands réglant leur sort.
Ça fait du grabuge auprès des anciens résistants qui ont pris ça comme une attaque contre... un homme qu'il considère comme un héros.
Et qui a sa plaque dans la préfecture de Blois.
Et là, on voit bien qu'on rentre dans une histoire qui est une histoire difficile. Est-ce qu'il l'a fait par conviction ? Est-ce qu'il l'a fait pour se cacher, pour assurer sa protection ? On se pose plein de questions. Quoi. Et c'est, on n'aura jamais de réponse.
On n'aura jamais de réponse. Et puis en plus, c'est sûr qu'on juge à l'intérieur de nous-mêmes... Mais je me dis que je ne sais pas du tout comment j'aurais été à ce moment-là. Hein. Quand on vit des périodes comme ça, on est sujet à de telles pressions, à de telles peurs. On ne sait pas du tout comment on peut réagir. Hein.
C'est vrai que c'est facile aujourd'hui de faire le malin quelques décennies après et après le travail des historiens.
Mais c'est pour ça que la mémoire de la Shoah me semble quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que quand on travaille cette question-là avec les élèves, c'est quelque chose qui prend tout de suite. C'est quelque chose sur lequel ils sont tout de suite fascinés. Alors, il peut y avoir une fascination un peu morbide. Enfin, il y a un côté mortifère, etc., qu'il faut tout de suite dégoupiller. Mais je pense que faire l'histoire, pour garder la mémoire de cette période et de la Shoah, c'est fondamental. Parce que justement, ça nous interroge en tant qu'individu sur le comportement qu'on aurait pu avoir. Ça nous oblige à nous poser des questions en montrant les mécanismes de l'administration, en montrant que les gens n'agissent pas forcément par antisémitisme ou parce qu'ils sont fous ou parce qu'ils sont déréglés mentalement, etc. Non, de voir des gens tout à fait normaux qui vont participer à la chaîne de mort en jouant le rôle qu'on leur dit de jouer par manque de courage, par souci de carriériste, par la volonté de se protéger, de gagner son salaire, hein, tout simplement, ils font ce qu'on leur demande, sans se poser de questions, ou bien s'ils s'en posent, ils les enterrent très vite, parce que ça devient très vite trop douloureux pour eux. Ça nous oblige à nous questionner. Et c'est ça qui est intéressant, ça nous questionne sur l'humain, profondément.
Et malheureusement, ça reste d'actualité et de... non seulement chez nous, mais partout dans le monde, quoi.
Peut-on désobéir à son État, à son administration ? Peut-on s'émanciper de la collectivité ? Peut-on penser en tant qu'individu ? Peut-on lutter contre une machine qui semble huilée et qui avance comme ça ? Et ce genre de questions, quand ça se pose à des jeunes gens de 15-16 ans, quand on leur met le nez dans ça, ils sont à l'écoute. Et je pense que la Shoah, ça sert à ça, quoi. C'est un formidable déclencheur de réflexion individuelle, collectif. Ça fait mûrir, ça fait penser. Maintenant, je sais de quel côté du monde je ne serai jamais, quoi. Peut-être que je ne serai pas un héros, parce que c'est compliqué d'être un héros. C'est compliqué, c'est risqué. Quand on risque de perdre sa famille, quand on est injuste et qu'on protège un enfant juif, quand on est un résistant et qu'on va distribuer des tracts, etc., les conséquences, elles sont pour soi, mais elles sont aussi pour toute la famille. Mais je sais que je ne serai pas un salaud. Je ne serrerai pas le bâton.
Et voilà les amis, ainsi s'achève cette émission que vous pouvez réécouter sur le www.polemix-et-la-voix-off.com. Et en attendant, allez donc jeter un œil à l'album de vieilles photos de famille. Vous y trouverez certainement d'autres histoires. Salut!